Emmanuel Baude, bonjour.
Bonjour.
Donc, on est là aujourd'hui ensemble pour présenter des difficultés qui existent pour des gens qui recherchent un emploi, qui ont envie de travailler et qui n'arrivent pas pour des problèmes de handicap. Donc, au travers de votre expérience, de vos problèmes personnels, peut-être qu'on pourra aller bien au-delà pour voir comment on peut améliorer les choses de ce point de vue.
Très bien. En fait, je vous remercie de m'accueillir dans votre émission pour pouvoir en témoigner, car justement, suite à mon accident du travail et à mon double handicap et licenciement pour inaptitude au travail, je ne trouve pas d'emploi, car malgré les diverses formations que j'ai fait et bilan de compétences, le seul problème qui se pose la plupart du temps, c'est la communication vers les employeurs, les entreprises, surtout pour des postes qui pourraient être adaptés, en fait. Mm-hmm. Des postes qui pourraient être adaptés, car il y a des handicaps invisibles et il y a aussi un problème de communication, en fait, où j'ai pu m'apercevoir que des recruteurs ou des employeurs se font une idée un peu négative du handicap, en pensant qu'on va toujours être absent ou en arrêt de travail, alors que c'est pas ça du tout. C'est juste qu'il nous faut, entre guillemets, un poste adapté. On ne peut pas travailler comme tout le monde, mais on peut travailler.
Donc, dans les formations que vous avez réalisées depuis vos problèmes, hein, on est bien d'accord, votre licenciement, hein,
oui.
Est-ce que dans ces formations, on tient compte de vos problèmes spécifiques de handicap ou bien ce sont des formations qui sont tout venant?
Ce sont des formations, je dirais, tout venant. Il y a la dernière formation que j'ai faite, je dirais que mon handicap n'a pas été tenu en compte. Il s'est même retourné contre moi lors de l'examen avec le jury, parce que ils m'ont fait comprendre que le métier dans lequel je voulais travailler ou me diriger, ça, le handicap allait vraiment poser problème. Alors que non, mon handicap ne pose pas problème pour pouvoir travailler. Les formations, non, n'en tiennent pas compte. C'est à nous à nous adapter, en fait. Mm-hmm. Et les formations qu'on fait, c'est pour acquérir des compétences, mm-hmm. des connaissances, pour pouvoir justement changer de métier de travail, mmh. pouvoir vraiment faire une reconversion, puisqu'on ne peut plus travailler dans le domaine dans lequel on était avant. On a dû faire un deuil, on essaie de faire une reconversion, mais même cette reconversion, même avec une formation, ça ne suffit pas.
Mmh. Donc parmi les formations, vous en avez réalisé plusieurs ou une seule? Et puis, parmi celles-là, est-ce que vous avez choisi celle que vous vouliez faire pour vous destiner à un nouveau métier dans le cadre d'une reconversion, justement?
Oui, je les ai choisies. Je suis allé les chercher, vraiment. À 50 ans, quand j'ai eu mon licenciement pour inaptitude, bien sûr, on m'a fait comprendre qu'il fallait que je m'oriente vers des métiers numériques ou informatiques, puisque dans beaucoup de postes, c'est demandé. Donc je me suis dirigé vers ces domaines-là. Et en effet, c'est vrai que j'ai dû vraiment... toutes ces formations, je les ai faites de mon propre chef. J'ai en assistance informatique ou en bureautique ou en numérique. C'est même en anglais. Et c'est moi qui suis allé chercher les formations pour justement avoir le maximum d'atouts pour pouvoir accéder à l'emploi.
Donc, parmi les problèmes que vous avez, hein, les problèmes de handicap, est-ce que vous avez déterminé que ce type de problème-là vous empêchait de faire un certain nombre de métiers? Pour résumer, et par contre, vous permettrez d'en faire d'autres. Peut-être on peut les définir.
Oui, car quand on ne peut plus travailler en manutention ou en logistique, comme là c'est mon cas suite à des rechutes, des tendons d'Achille arrachés, des rechutes où je ne peux plus porter de charges lourdes, on s'oriente vers des postes plus administratifs ou informatiques. Donc là c'est clair que je m'étais orienté vers l'assistance informatique et aussi l'imprimerie numérique et aussi vers la bureautique pour pouvoir justement me trouver un emploi. Mon parcours de reconversion n'est pas terminé parce que justement le plus dur c'est de définir le poste ou vers quel emploi on va pouvoir travailler en tenant compte de ces restrictions médicales.
Est-ce que antérieurement à ça, donc dans le cadre de votre activité professionnelle précédente, il y a une partie de vos handicaps actuels qui sont liés à une activité professionnelle?
Oh, tout à fait. Donc en fait, les problèmes de tendons que j'ai, tendons d'Achille qui ont été arrachés et où j'ai eu plusieurs inflammations, rechutes, tendons fissurés, c'était lié au port de charge lourde et à décharger des camions avec des transpales à la main. On ne travaillait pas en électrique comme maintenant, on travaillait tout à la main. Et c'est complètement lié à un travail très intense, très physique, très répétitif et très, 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 très dur. Par tous les temps, que ce soit par 40 degrés canicule ou en moins 10 en extérieur, en entrepôt, j'ai tenu 20 ans avant que mon corps ne lâche. Ça a commencé par le dos. Je me suis soigné au niveau du dos et c'est sans prévenir le tendon d'Achille qui a arraché, quoi, qui a éclaté. Et de là, j'ai au bout de 2 ans, j'ai été aidé par la Sécu, mais au bout de 2 ans, je suis passé en licenciement pour inaptitude. J'avais pas d'autre solution.
Donc, c'est vrai que certains travailleurs, on va dire ce qu'on appelle manuel à définir, hein, mais physique en tout cas, hein, vivent dans des conditions compliquées. On peut peut-être d'ailleurs dans quelques instants écouter un témoignage que j'ai enregistré et revenir un peu sur le sujet à partir de cette personne qui a rencontré dans un travail justement de manutentionnaire, etc., des problèmes de santé à la suite de ça. Peut-être qu'on pourrait rebondir là-dessus après. Oui. Ça va prendre une vingtaine de minutes.
Hein. Oui, pas de problème.
Voilà, donc on va écouter ce reportage. Michel.
Bonjour.
Vous avez une longue expérience de métier que beaucoup de gens ne connaissent pas, hein, et qui sont, bon, je veux dire, dans la manutention, dans des métiers, je ne sais pas si on peut appeler ça de service, d'endroits, des plateformes par exemple. Donc comment on pourrait faire un petit peu le bilan de vos expériences professionnelles? Votre première expérience, par exemple?
C'est une entreprise qui frappe des pièces automobiles. Donc j'ai travaillé sur des presses à amenage. C'est des bobines d'acier ou d'autres matières qui sont amenées dans une machine et qui sont tapées pièce par pièce dans la machine pour donner la forme. La forme, par exemple, d'une biellette, d'un marchepied qu'on met sur les voitures, ou des pièces de table de ping-pong ou des choses comme ça. Et donc, on est devant une machine pendant toute la journée. Il y a le changement d'outils. C'est des outils de plusieurs tonnes qu'on vient mettre dans la machine. Ensuite, il faut les monter à la main. Donc il n'y a pas vraiment d'aide à part un clerc, les clercs à deux fourches. Donc on vient positionner l'outil avec un clerc à l'intérieur de la machine, donc il faut être précis pour pas abîmer l'outil. Une fois qu'il est positionné, donc on vient le visser à la machine, à la main bien sûr. Et une fois que l'outil est monté, donc on vient positionner une bande, donc du coup, comme c'est des rouleaux, il faut les passer dans des dérouleurs. Donc à la main, on vient prendre le bout de la bobine, on découpe le cerclage qui maintient la bobine, une fois que l'embout il est positionné dans le dérouleur. Il faut que ça soit bien serré parce que quand on découpe le cerclage, la bobine elle risque de reculer. Donc il faut le faire avancer dans l'outil et le positionner correctement pour que la bobine en fait, elle puisse rentrer bien droit dedans. Enfin, la machine, c'est une presse qui vient donner une pression de plusieurs tonnes donc, sur la bobine. Et en fait, c'est un peu comme une mâchoire. Ça se referme sur la bobine et ça fait un choc entre les deux. Et donc la pièce elle ressort en bout. Au fur et à mesure que la bobine elle avance, ça tombe dans un bac. Ensuite, on trie les pièces. Et une fois qu'on a trié les pièces, on commence en fait ainsi de suite comme ça.
Donc, on va dire dans cette façon de produire, il y a des machines, il y a des hommes.
Oui.
J'imagine qu'avec le temps, donc des machines de plus en plus performantes et moins d'hommes pour s'en occuper. Donc, vous, quand vous avez travaillé, vous étiez à un moment dans une entreprise où il y avait, je ne sais pas si on peut dire ça un équilibre, mais un point entre le travail humain et le travail de la machine. Est-ce que pour vous, à terme, vous pensez intéressant que plus de travail soit fait par des machines et moins par des hommes, par exemple ?
Ça dépend, parce que les machines remplacent certaines choses dans la production. Donc pour les personnes qui travaillent, justement, des fois ça allège certains points dans le métier. Le problème, c'est que du coup, on nous demande beaucoup plus de travail. Donc c'est-à-dire qu'il y a moins d'hommes sur le poste de travail, mais beaucoup plus de travail pour la personne.
Donc ce travail humain, il est de quel ordre ? Il est beaucoup physique ou plutôt de l'ordre de la vigilance, de l'ordre aussi de la capacité à agir pour que les choses se passent bien ?
Bah, c'est un petit peu des trois, en fait. C'est beaucoup physique parce que faut être toujours concentré parce qu'on comme on a plusieurs choses à faire en même temps. Du coup, il faut faire attention à la production, donc la qualité de ce qu'on est en train de faire. Faut faire attention aussi à la sécurité, parce que comme on travaille sur plusieurs choses en même temps, il y a des choses qui peuvent se produire à côté, et si on ne fait pas attention, ça peut créer soit des dégâts sur la machine, ou des accidents de travail.
Donc par rapport à cet équilibre justement entre sécurité, efficacité et qualité, est-ce qu'il y a un temps, une durée possible de travail dans la journée, voire même dans l'année, pourquoi pas même dans la vie ? Comment on peut envisager les choses de manière durable, en étant efficace, tout en étant en sécurité ?
Ce genre de travail, c'est 8 heures par jour, c'est très bien. Mais par contre, pour la durée dans une vie, il faut compter à peu près une dizaine d'années. Et encore, certains métiers, c'est très peu de temps.
Ce qui veut dire de changer de poste, voire d'emploi, pour ceux qui travaillent sur ces tâches-là, et d'être remplacé. Comment ça se passe dans une entreprise ? Vous avez vécu un peu ça ?
Oui, c'est le changement de poste justement pour éviter soit la redondance, donc toujours faire le même travail, les mêmes gestes répétitifs, car dans ces métiers-là, pour ma part, ma propre expérience, ayant travaillé dans des emplois qui justement étaient très physiques, j'ai des problèmes du coup d'articulation. Donc à cause du mouvement répétitif, aussi des charges et de la cadence, surtout la cadence, parce qu'à l'heure actuelle on demande beaucoup de cadence. Il faut absolument produire, et plus on y arrive et plus on nous demande encore plus. Donc il faut toujours augmenter la cadence, peu importe la cadence qu'on a de base.
Donc dans l'entreprise, est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui font le même travail, la même fonction ? Et est-ce qu'on peut justement comparer les cadences pour l'employeur, hein, pour garder ou se séparer de la personne qui serait la moins productive.
Oui, il y a plusieurs personnes oui, qui font le même travail. Et justement, c'est celui qui va arriver et qui va montrer plus... qui est plus motivé qu'un autre, qui va pouvoir rester. Mais par contre, c'est au risque et péril parce que bah, justement, c'est physique. Enfin, les articulations sont mises à rude épreuve. Port de charge lourde, le dos il prend cher. Les articulations au niveau des coudes, des poignets et surtout des épaules. Parce que c'est hyper fragile et justement, dans ces métiers-là, pour vous donner un exemple, à l'heure actuelle, je dois faire une radio des deux mains parce que justement, j'ai les doigts, les articulations des doigts qui sont plus chères dans un de mes derniers travaux que j'ai fait. Et j'ai des douleurs permanentes dans les doigts.
Donc, dans l'entreprise, est-ce qu'il y a des inspecteurs du travail ou est-ce qu'il y a des médecins qui expertisent au bout d'un moment où vous en êtes de votre état physique, de santé aussi? Et est-ce que par la suite, quand vous quittez ce travail, une fois que vous avez, je ne vais pas dire un handicap, mais des difficultés qui ont été repérées hein, pour justement ces articulations ou autre chose, est-ce que c'est une difficulté pour être embauché dans d'autres entreprises de genre de secteur, on va dire ?
C'est seulement par rapport à la médecine du travail, ça, c'est si vous avez passé votre dernière visite médicale. Et que c'est noté. Si c'est noté, l'entreprise, oui, peut avoir une réticence à vous reprendre parce que justement, comme vous avez déjà des problèmes de santé, c'est soit, donc, eux, ils ont des postes à pourvoir qui sont moins physiques, donc du coup, ben, ils peuvent quand même vous prendre. Mais s'ils en ont pas, vous ne serez pas pris pour ça. Ils ne vont pas forcément vous le dire, mais ils ne vous reprendront pas.
Donc, ces métiers physiques, on peut les réaliser jusqu'à quel âge ? On va dire, on parle beaucoup en ce moment de retraite. Est-ce que ça a un sens, la retraite, dans ces métiers-là ? Est-ce qu'on capitule avant ? Et est-ce qu'il faut se recycler vers d'autres métiers moins physiques ?
Ben, ma dernière expérience, là, justement, on était une équipe composée aussi bien de jeunes que d'anciens. Et dans les anciens, il y avait une personne qui avait plus de 60 ans. Elle travaillait avec nous. Et bien sûr, les chefs, enfin les supérieurs, ne demandaient pas forcément à la personne-là de travailler à la même cadence qu'une personne plus jeune. Mais par contre, il faut suivre quand même la cadence. Il y a toujours ce port de charge et cette cadence qui demande à faire. Mais ça, c'est aussi par rapport au poste qu'il y a à pourvoir. Donc, comme dans cet emploi, on était quasiment tous sur les mêmes postes, ils étaient positionnés surtout sur les endroits où la cadence était un petit peu moins élevée. Mais à partir du moment où, dans une entreprise, la cadence partout est la même, ces personnes-là, ils perdraient vite leur emploi. Donc, moi, je dirais, dans ces entreprises ou dans ces métiers-là, l'âge, je dirais, à partir de 40-50 ans. 50 ans, là, ça commence à devenir un petit peu compliqué pour les personnes de 50 ans et au-dessus.
Donc, il y a quelques années, vous m'avez parlé d'une expérience professionnelle où vous travaillez sur des palettes et vous étiez assez fier de dire que vous aviez fait autant de palettes dans la journée, enfin voilà, par rapport à d'autres qui en faisaient un peu moins, et vous pensiez avoir peut-être plus de chances d'être intégré de manière durable à l'entreprise. Vous vous souvenez de ça?
Oui, oui. D'ailleurs, c'était pas des palettes, hein. C'était des caisses en bois, donc de fruits et légumes. Donc on fabriquait les caisses. C'est une chaîne de production, on commence par des lattes de bois et ça finit, en fait la fin de la production c'est des caisses en bois. Et moi j'étais à la fin, au début j'ai débuté comme tout le monde, hein. Je prenais les caisses et je les posais sur les palettes, il fallait faire des palettes de 8 étages et à la cadence de la machine. Donc il fallait vraiment courir pour remplir les palettes. Et j'étais fier parce que il y avait des personnes qui tenaient pas plus d'une journée, même voire j'ai déjà vu une personne partir au bout de 20 minutes en pleurs parce qu'elle n'en pouvait plus, la cadence était trop rude. Et j'ai tenu quand même pendant 2 mois sur ce poste-là. Et ensuite, j'ai évolué un petit peu. Je me suis occupé de l'emboîtage. Je faisais aussi de la mise en palette, hein, mais je passais aussi à l'emboîtage. Donc du coup, ça rendait le métier moins difficile, c'était moins compliqué. Mais bon, l'emboîtage, c'est quelque chose qui est simple à faire. Mais les choses qu'on ne voit pas, c'est justement avec la cadence, le geste répétitif, devoir faire tout le temps le même geste. C'est comme je disais tout à l'heure, ça use les articulations. Et c'est là que je me suis rendu compte en fait que même sur des postes où la cadence reste correcte et que le travail est moins physique, que y a les mêmes risques en fait que quelqu'un qui fait un travail où il va porter des grosses charges lourdes, où il va avoir beaucoup de travail dans une journée, où il va faire des journées de 10-12 heures, même si nous on en faisait à peu près 8 heures par jour. Moi je refaisais un peu plus parce que après en fait ils ont installé un robot qui faisait l'emboîtage lui-même et il cerclait et il faisait les palettes lui-même. Moi, je me suis retrouvé à gérer mon côté parce qu'il y avait deux chaînes de production. Donc, ce que je faisais, c'est que les caisses, elles arrivaient à l'emboîteuse. L'emboîteuse, elle prenait 2 caisses, elle les mettait l'une ensemble, les deux ensemble. Les caisses passaient, ils arrivaient devant moi et moi, je réemboîtais parce que souvent, c'était mal emboîté. Donc il fallait que je réemboîte les caisses, que je contrôle chaque agrafe sur chaque caisse. Je devais aussi réparer les caisses. Quand il manquait des agrafes, il fallait remettre des agrafes. Quand il y avait des caisses de cassé, il fallait les mettre de côté. Il y avait un intérimaire qui venait, il récupérait la caisse, il réparait la latte, il venait la ramener. Donc il fallait remettre sur le tapis, réemboîter à la main, remettre sur le tapis. Il fallait surveiller le passage au robot. Donc au début, le robot, lui, il prenait les 2 caisses qu'ils étaient emboîtées, il les mettait droite, et ensuite, il faisait un paquet, par exemple, de 5 caisses emboîtées, et une fois que c'était fait, il faisait des rangées pour pouvoir mettre sur la palette. Donc des fois, c'est 2-3 rangées suivant la taille de la caisse. Ensuite, ça passait dans une lieuse. Et là, une fois que le cerclage était posé, il y avait une pince qui prenait le dessus, qui posait sur la palette. Il fallait surveiller tout ça parce que la moindre caisse qui était de travers pouvait faire que le robot écrasait tout le paquet. Donc après, le robot était bloqué, donc il fallait tout enlever.
On comprend bien que dans ces entreprises très physiques où il faut produire des choses ou conditionner des choses, il y a une articulation du travail entre l'homme et les machines. Comment vous voyez dans le temps le rapport entre l'importance du travail humain et la place prise par les machines?
Pour mon avis personnel, les machines ne prennent pas forcément la place de l'humain parce qu'il y aura toujours quelqu'un derrière pour pouvoir les réparer. Parce qu'il faut les régler, faut les réparer. Il y a tout le temps une panne quelque part. Et même si on remplaçait, par exemple, celui qui répare la panne par un robot, il faudrait encore quelqu'un derrière pour pouvoir réparer le robot en lui-même. Les programmes ne peuvent pas se créer tout seuls. Et même s'ils arrivaient à trouver une intelligence artificielle pour créer le programme de la machine, il faudrait quand même quelqu'un encore derrière pour l'intelligence artificielle vérifier, contrôler que tout est correct. C'est vrai que ça allège l'entreprise du nombre de salariés à l'intérieur. Ça, c'est clair. De toute façon, sur tous les travaux que j'ai effectués là, enfin, leur but, c'est de justement diminuer le nombre de personnels. Dès qu'ils peuvent enlever une personne, ils en enlèvent une. C'est pour ça que je disais la cadence, parce que s'ils arrivent à trouver une personne qui arrive à gérer la cadence, mais en plus en faire un peu plus, ça leur permet de supprimer une personne. Voilà, souvent, on se rend pas compte, c'est que on donne beaucoup, justement pour pouvoir effectuer le travail et essayer de faire mieux que les autres. Et le problème, c'est que l'entreprise, quand elle s'en rend compte, elle demande encore plus. Je vous donne un exemple. Il n'y a pas si longtemps, j'étais dans une équipe où on était trois à gérer plusieurs postes de travail en même temps. À une certaine heure, en fait, ils doivent renvoyer des gens parce que c'est seulement les contrats qui devaient rester. Et ils ont renvoyé les personnes et ils m'ont laissé tout seul, en fait, pour remplacer trois personnes. Parce qu'ils savaient que je pouvais gérer tous les postes en même temps. Et du coup, ça fait des personnes en moins. Donc les personnes, ils peuvent pas faire soit des heures sup ou terminer leurs heures. Ils sont obligés de partir avant. Mais le problème, c'est que moi, je peux pas refuser, en fait. Je suis obligé de... Donc du coup, même si c'était dur pour moi de gérer tout, c'était obligatoire. J'étais obligé de suivre cette cadence-là imposée parce que eux savaient de quoi j'étais capable, moi. Une fois qu'on a montré ce qu'on sait faire, ensuite, le plus dur, c'est de l'assumer aussi. Parce qu'on se dit que, justement, les chefs, ils savent ce qu'on a donné. Donc maintenant, quand ils viennent nous voir pour nous dire « Écoute, aujourd'hui, ça t'a diminué un petit peu » ou alors que tu essaies juste de te caler sur la performance des autres, ils viennent automatiquement te voir pour te dire « Ben, écoute, là, faut que t'accélères parce que ça va pas. »
Donc j'imagine que le chef du personnel, son métier, une partie, hein, c'est justement de voir les compétences, voir jusqu'où on peut amener les gens à produire davantage, hein, et après se séparer des personnes moins utiles.
C'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. C'est pas son boulot de base, hein, parce que si on lui montre pas, il va pas aller le chercher. Il va pas aller chercher, mais il faut qu'il le voit, parce que s'il ne perçoit pas les personnes justement qui peuvent en faire beaucoup, il peut se retrouver avec une équipe qui est au-dessus de ce que l'entreprise voudrait de base. Si par exemple une équipe elle est de 8 personnes et qu'en réalité, dans la réalité, ils ont besoin que de 6 personnes, il faut que le chef d'équipe puisse le voir ça. Si les 6 personnes peuvent faire le boulot de 8, il faut qu'ils suppriment 2 personnes dans l'entreprise. Et à l'heure actuelle, c'est ce qu'ils cherchent justement. Ils cherchent des personnes qui en feront un maximum. Et il y a beaucoup de personnes aussi, tous ceux que j'ai vus passer, il y en a beaucoup, ils connaissent ça et ils vont pas vouloir en faire plus. Mais le problème, c'est que ces personnes-là vont pas rester. Entreprise. C'est pas qu'ils sont pas motivés, c'est qu'ils savent que s'ils en font beaucoup, ils vont se faire avoir à un moment donné.
Donc, la place des robots, on voit qu'elle se développe, hein, dans les entreprises, notamment pour prendre une part du travail qui est soit difficile, soit même impossible dans des cadences élevées, sur des responsabilités un peu différentes des personnes qui sont dans l'entreprise. Que peut-être dans cette entreprise, il y a une hyper, on va dire, spécialisation des personnels, dans la mesure où de plus en plus, ces personnes doivent être compétentes pour analyser les process, voir ce qui va, ce qui ne va pas, faire les corrections nécessaires. Est-ce que les personnes qui, on va dire, ont un rôle plus important, vu qu'il y a des machines, ont aussi une formation qui s'adapte à ça pour les amener à un niveau supérieur, voire à des salaires supérieurs?
Oui, il y a des formations qui sont proposées parce que les machines deviennent compliquées. Le robot d'emboîtage pour les caisses que j'ai dû gérer, il faut savoir faire le programme, enfin pouvoir changer le programme, pas forcément le faire. Il est fait de base par des programmateurs. Et nous, en fait, il faut absolument savoir le programme. Comment on fait, sur quelle touche il faut appuyer, Bon, soit ils donnent une formation, ou soit on apprend sur, on peut aussi apprendre sur le tas. Avec, par exemple, les collègues. Par exemple, si on arrive dans l'entreprise et que la personne à côté, ça fait longtemps qu'elle travaille là, elle peut nous apprendre à travailler sur la machine et nous montrer comment ça fonctionne. Après, il y a d'autres postes où bah, il faut suivre une formation pour pouvoir gérer le poste de travail.
Est-ce qu'il y a un intéressement à l'évolution, évolution de carrière ?
Oui, oui. Beaucoup de mes anciens collègues, justement, cherchaient à évoluer dans l'entreprise. Il y a une des entreprises où j'ai été, où on nous donnait un Tokyo Walky. Donc ça nous donnait un grade supplémentaire. C'était pas officiel, hein. C'était vraiment, voilà. On avait plus de choses et plus de responsabilités, justement, ça nous donnait plus de responsabilités, donc... on cherchait à ça, et donc juste au-dessus de ça, en fait, il y avait un poste qui nous permettait de gérer toute une équipe. Donc on devenait presque chef, en fait, d'une équipe complète, et qui pouvait nous permettre aussi de passer une étape au-dessus, devenir chef.
Voilà, donc effectivement, ce sont des métiers, des fonctions, des conditions de travail assez peu connues du grand public, parce qu'on ne voit que peu de reportages dans notamment les chaînes de télévision, hein. Je suis pas sûr même que ceux qui représentent la population, les députés, les sénateurs, aient une réelle conscience des conditions de travail. Ce serait bien pour eux qu'ils fassent un stage ouvrier.
Oui. Oui, parce qu'il y a certains postes de travail qui sont vraiment, vraiment très, très durs. Dans la caisserie, là où j'ai travaillé, c'était vraiment un boulot... on est traité un petit peu comme un chien, hein. C'était vraiment très, très difficile. Je commençais à 7h45 au matin, on me demandait de rester après 17h, des fois jusqu'à 21h au soir, et recommencer le lendemain. Comme ça, et sachant qu'à mon poste de travail, je faisais à peu près 6 ou 7 travails en même temps.
Bon, bah des conditions de chien, alors. Je sais pas ce qu'il en pense, le chien. Voilà, bah, le chien a l'air d'accord. Une vie de chien, c'est pas forcément pire.
Non, je crois qu'ils sont même plus tranquilles que nous, je crois.
Merci Michel, bon courage.
Merci, bon courage à vous aussi.
Voilà, vous écoutez Radio Campus, 106,6 FM, campusille.com et en DAB+, sur la métropole lilloise et sur l'Artois. Alors bien sûr, Michel, qu'on vient d'entendre, n'a pas souhaité dire son vrai prénom pour ne pas être trop inquiété après et rester quand même dans la course du travail sans se faire massacrer par les recruteurs. Voilà. Donc on se retrouve en direct avec notre invité qui s'appelle Emmanuel Baude. Donc vous m'avez dit votre nom, donc je le dis tel qu'il est. Donc pas trop peur des réactions
Non, pas du tout, car ça fait tellement longtemps que je cherche en fait un emploi et je me suis vraiment retrouvé dans son témoignage. Et tout ce qu'il a expliqué, raconté, c'est vraiment ça dans l'entreprise. C'était un autre domaine, mais le fonctionnement était vraiment le même. En logistique, c'était le même fonctionnement. Que ce soit en industrie, en logistique, c'est à peu près le même fonctionnement. C'est à partir du moment où vous montrez que vous êtes capable de faire certaines choses, par conscience professionnelle, bah, en fait, ça se tourne contre vous. C'est une arme à double tranchant. Et que, en fait, après, bah, on vous en demande toujours plus. Et si quelqu'un en fait plus que vous, bah, on vous présente la personne qui est capable d'en faire plus, mais c'est pas normal que tu n'arrives pas à faire tel chiffre puisque lui est capable. Voilà, c'est vraiment ça.
Donc on le fait jusqu'au moment où ça casse.
On le fait jusqu'au moment où ça casse, jusqu'au moment où le corps ne peut plus. Et tous ceux qui, comme moi, mes collègues, ne pouvaient plus, j'en ai revu quelques-uns par la suite, ont été licenciés. De toute façon, ils sont licenciés. Au bout d'un moment, tous ceux qui ne peuvent plus fonctionner ne sont pas... Donc, tout le monde n'a pas la chance d'avoir une reconversion dans l'entreprise. Là, d'après le témoignage, ce qui est intéressant, c'est vrai que d'être formé sur des machines, ça peut être une solution. C'est ce que j'ai cherché à faire au travers de ma dernière formation. Pourquoi pas? Mais non, j'ai aucun problème avec ça, justement. Justement, je suis là aussi pour témoigner pour tous ceux qui, comme moi, galèrent et n'arrivent pas à se recycler, n'arrivent pas à trouver de solution avec les problèmes de physique qu'ils ont. Trouver la bonne formation, le bon créneau, pour justement s'adapter, réussir à s'adapter, quitte à être formé sur une machine un peu plus sophistiquée qu'on puisse gérer et travailler.
Donc le problème a un peu plus de 50 ans, j'ai bien compris ça. C'est à la fois de trouver, comme tout le monde, un travail à cet âge-là, pour ceux qui n'en ont plus. Et c'est aussi, à un moment donné, de voir à partir de vos compétences et de vos capacités, ce que vous pouvez faire dans le domaine du travail. Est-ce que vous avez pu faire dans de bonnes conditions, on va dire un bilan de compétences qui permettrait d'établir une grille de lecture pour un employeur potentiel, par exemple?
Oui, justement, je suis pris en charge par un organisme d'insertion et j'ai justement des rendez-vous avec un psychologue du travail et des personnes qui travaillent dans ce domaine, avec qui on va essayer de voir ce qui est possible de faire. On appelle ça maintenant, c'est vrai, le transfert de compétences, c'est-à-dire sur ce qu'on a appris, sur ce qu'on a vu en formation. Qu'est-ce qu'on peut faire de tout ce qu'on a appris pour justement rebondir, savoir sur quoi rebondir, quel poste peut être adapté en tenant compte de nos restrictions médicales et quel employeur serait accepterait de nous prendre tout en enlevant les a priori qu'il pourrait avoir sur nous. C'est ça aussi le gros souci, c'est l'a priori qu'on a sur le handicap, la forme parfois de discrimination qu'on peut rencontrer quand on vous dit clairement que on veut pas vous prendre, on peut faire payer une amende que de vous prendre parce que vous serez tout le temps absent, malade et en faisant une fausse image de votre handicap, ne vous connaissant pas vraiment. Et faut nous rencontrer, apprendre à nous connaître. Il y a une chose qui est très intéressante, auquel je crois, c'est quand c'est comme ça, il faudrait faire plus d'immersion. On n'en fait pas assez. Moins qu'on puisse voir, que l'employeur puisse voir de quoi on est capable, et si le poste peut nous convenir, est-ce que physiquement ça va poser problème ou pas. Plutôt que de nous fermer la porte au nez, dire non, vous avez un handicap, on va vous sentir en difficulté, mais essayez-nous. Essayez-nous.
Donc on a bien compris le problème que vous soulevez. Est-ce que dans les évolutions technologiques, on peut espérer aussi des outils qui permettent de favoriser une intégration de personnes handicapées en simplifiant ou en améliorant leur poste de travail? Et qu'est-ce qu'on peut imaginer de nouveau qui n'existe pas donc?
Moi aussi, bien sûr. Par exemple, les entreprises investissez plus dans des matériels électriques pour pouvoir aider au port de charge, par exemple. Ou former le personnel sur des machines plus sophistiquées, comme votre témoignage, justement, c'était un cas qui était intéressant, où là, on pourrait évoluer et travailler sur des machines automatisées. Oui, il faudra toujours quelqu'un pour s'occuper de la machine. Et il faut adapter le poste. Il y a moyen, c'est pas une fatalité. Même si on ne peut pas porter de chaussures de sécurité, faut trouver un autre moyen. Et réfléchir, il faut vraiment... Il y a un gros travail à faire, je pense, pour ça. De communication entre les gens qui comme moi, ont un handicap et les employeurs qui ont un peu peur de nous, quoi, quelque part. Un peu peur de...
Et donc, est-ce que vous pensez, Emmanuel, que... Avoir une culture large au départ, ça permet peut-être après, en cas de souci, de réorientation, de mieux s'adapter.
Oui, il faut travailler sur une culture large, c'est ce que j'ai entrepris sur mon premier bilan de compétences, sur les formations que j'ai pu faire. Et avec les formations que j'ai faites en informatique et en numérique, oui, je vais faire un nouveau bilan de compétences pour pouvoir jusqu'où... Sur quoi je peux rebondir, vers quoi je pourrais m'orienter.
Donc, pour préciser, Là, on encourage beaucoup de gens à l'apprentissage.
Oui.
Est-ce que l'apprentissage, c'est une bonne solution pour, en cas de problème, comme vous l'avez rencontré, rebondir? Ou est-ce qu'avant cet apprentissage, il faut avoir des bases solides et larges pour justement intégrer un apprentissage qui se fasse sur déjà quelque chose de conséquent et qui permette après de mieux aborder les problèmes, on va dire, de société d'une manière plus globale et d'adaptation à des évolutions des métiers?
Il faut d'abord, surtout, un bon conseil que je pourrais donner, c'est... J'en ai fait à la première formation, c'est de bien vous orienter, vraiment bien vous orienter. Dans certains domaines, l'image qu'on peut se faire d'une formation ou d'un domaine est parfois faussée et on peut être confronté à des problèmes culturels et aussi de niveau scolaire ou de niveau intellectuel ou de niveau, si on n'est pas trop technique, il y a des choses qu'on a du mal à faire. Il faut bien être préparé, bien se renseigner avant, bien travailler son projet et bien se former. Et ne pas hésiter à rencontrer ceux qui font les formations ou des employeurs, savoir ce qu'ils ont besoin, parce que sinon, on peut être confronté à des formations qui sont d'un niveau trop haut, où on n'arrive pas à avoir le diplôme, où on manque de compétences, où on doit encore faire d'autres formations. Le temps joue contre nous. C'est le conseil que je pourrais vraiment, vraiment donner. Choisissez vraiment la bonne formation.
Alors, dans le domaine de la formation professionnelle, on peut imaginer qu'on peut intégrer les lycées professionnels, par exemple. Il y a aussi les universités, hein, qui, à un autre niveau, peut-être en formation continue, permanente, on appelle ça aussi, peuvent remettre des gens en capacité de travailler autrement, avec des bases différentes ou ressourcées. Et puis, il y a ce qu'on appelle le monde de l'industrie, ou pas seulement de l'industrie, mais... du commerce peut-être aussi, où là on a des structures de formation qui émanent du patronat et qui forment des gens à des métiers, des chambres de métiers, des choses comme ça. Donc il y a trois possibilités, on va dire, peut-être d'autres que j'ai pas mentionnées, mais qu'est-ce qui peut être le mieux dans ces métiers plutôt physiques et manuels? Qu'est-ce qui respecterait le mieux la formation de base pour permettre après d'évoluer en cas de souci, plutôt que de mettre directement les gens sur des fonctions et des modes opératoires dont ils auront du mal de se défaire en cas de souci, pour lesquels ils auront du mal à trouver une évolution par rapport à des problèmes qu'ils rencontreront, comme on l'a entendu tout à l'heure.
Ah ben, faudrait que les entreprises déjà aient ce souci de vouloir former ses salariés. Quelle entreprise y pense? Quelle entreprise sensibilise un peu plus les salariés à justement aller faire des formations comme ça pour pouvoir évoluer? Parce que c'est pas toujours le cas. C'est l'erreur que j'avais faite. Quand j'étais dans mon entreprise et que j'avais pas pensé forcément à me former pour l'avenir, sans voir l'avenir arriver sur quoi pouvoir me former pour pouvoir aller sur des postes moins physiques, que il faut aussi que l'entreprise ait envie de le faire. Si l'entreprise n'a pas envie de former ses salariés ou de les laisser au même niveau où ils sont, Ça, on ne pourra pas avancer, mais ça va dans les deux sens. Il faut que l'entreprise ait envie de le faire, et puis sensibiliser le salarié aussi, puis qu'il ait envie de le faire aussi. Quoi.
Alors, dans certaines filières, il y a des congés formation qui sont prévus. Je ne sais pas s'il y en a plus qu'avant, ou peut-être moins d'ailleurs, s'il y a une restriction sur ces congés-là. Est-ce que c'est quelque chose que les entreprises peuvent utiliser pour mettre à disposition de leurs salariés, pour les faire évoluer même dans des postes avant qu'ils ne s'épuisent à la tâche?
Là, ce serait une bonne solution. C'est vrai que moi, je vois le cas, par exemple, de ma compagne qui, dans le cadre de son emploi, a eu suivi des formations internes à l'entreprise, oui, pour pouvoir justement évoluer. Le congé personnel formation, il faut bien l'utiliser, c'est sûr qu'il faut bien l'utiliser. Le CPF, ça c'est quand on travaille, et là il faut vraiment pouvoir l'utiliser à bon escient, je pense. Avant ça, il faut déjà avoir les bonnes formations de base, quel que soit le domaine où on soit.
Et est-ce que ces congés-là, c'est connu dans les entreprises? Est-ce qu'il y a éventuellement des syndicats qui font connaître ces possibilités? Est-ce que dans les entreprises que vous avez rencontrées, il y a des syndicats déjà?
L'entreprise où j'étais, non, c'était pas vraiment... On n'en savait pas plus. Ils n'en parlaient pas trop, quoi. Il y avait pas... ils parlaient jamais de formation, quoi. C'est dommage, parce que j'aurais bien aimé, ouais. Je leur avais demandé des formations, justement. Parce que physiquement, je commençais à... ça n'allait plus. Je leur avais réclamé plusieurs fois des formations. Ça n'avait pas abouti, malheureusement. Ça aurait été bien, quoi, que je puisse... justement, parce qu'en fait, j'aurais pu sortir du quai, me retrouver dans les bureaux, c'est ce que je voulais faire. Il n'y avait pas eu moyen, quoi. Est-ce que j'aurais dû aller plus au culot, ou alors vraiment aller sur un fonds GSIF, ou alors quitter l'entreprise, prendre le risque de quitter l'entreprise et aller faire vraiment une formation en dehors. Oui, mais c'est vrai que il faut pas attendre. Le temps que je joue contre vous, c'est ce qui m'est arrivé, en fait.
Alors, c'est vrai qu'on ne refait pas l'histoire, ouais. Et son histoire personnelle. Ouais. On peut en tirer des leçons et essayer d'en faire profiter les auditeurs, par exemple.
Oui. Ce que je pourrais conseiller à ceux qui veulent, qui sont dans ma situation de handicap ou dans leur entreprise, c'est de ne pas rester, de stagner dans le poste où ils sont, c'est de penser à l'avenir. On n'y pense pas. C'est vrai qu'on, quand on est dans un travail, une sorte de train-train, bon, on ne fait pas attention, on travaille. C'est le boulot qu'on fait tous les jours. On n'y pense pas, mais c'est important. Il faut vraiment y penser. Et se former et pour pouvoir rebondir, et quitte à changer de boulot, et aussi de s'armer le plus possible et le plus de formation possible et de connaissances dans tous les domaines.
Et quant à l'accompagnement, est-ce qu'il y a des structures sur lesquelles vous avez une bonne impression, qui vous ont fait bonne impression, qui vous aident en ce moment?
Oui. Donc, si je peux les citer, donc en fait, j'ai eu la chance par hasard. C'était pas par Pôle Emploi, hein, c'était sur un forum pour l'emploi. J'ai rencontré par hasard le PLI, c'est avec l'issue d'insertion qui m'ont pris en charge pour essayer de me trouver une solution. Ils m'ont envoyé faire des formations. Et en fait, ils essaient de voir dans quoi je peux travailler, malgré le double handicap invisible que j'ai. Qui fait que je peux pas travailler au casque, malheureusement, en assistance informatique. Alors on essaie de trouver un compromis. Par exemple, la cravate solidaire avec qui je dois faire un mentoring, là, parce qu'il y a il faut taper à toutes les portes. Renseignez-vous. Il y a des choses auxquelles vous n'avez pas droit, vous ne le savez même pas. Moi, j'ai tout découvert par hasard, par moi-même. Des organismes, des gens qui peuvent vous aider, il faut les utiliser, il ne faut pas avoir honte, ils sont là pour ça, et ils ne demandent que ça. La cravate solidaire, ils peuvent faire un mentoring avec un RH bénévole qui peut vous prendre en charge et vous aider, le PLI qui peut vous aider. Des organismes qui sont en dehors du système de Cap Emploi pour l'emploi, Cap Emploi, qui eux, ils ont des milliers de gens à gérer, ils sont débordés, mais les organismes à côté, il faut les utiliser. Ouais.
Eh bien, un grand merci, Emmanuel. Et bien sûr, on vous souhaite une très bonne année 2004, que vos vœux se réalisent.
Merci.
2024.
Monsieur. 2024, merci, monsieur Lavergne.
Thank you.